11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. On est confinés, mais on... Et ben voilà. On est dans un état bizarre. Il faut dire la vérité. On n'est pas. Oui. C'est vrai. Un mois de confinement, il y a un moment, ça porte sur les nerfs. Enfin, moi, je vois personnellement. Là, par exemple, je suis habillée en licorne. Sachez-le.
En licorne.
J'ai un pyjama de licorne.
Ok. Oui. On est à l'image.
Ah oui. J'avais envie de.
Vous avez le droit de faire rêver les auditeurs. Oui.
Parce que tout à l'heure, j'ai eu froid et j'ai ce petit. Toi, c'est douillet. Et puis, c'est sûr que c'est pas sexy. Tu peux pas aller dans un lit avec un mec avec un pyjama de licorne. Ou alors, si le mec il flash sur toi en licorne, c'est qu'il est très bizarre. Mais c'est un pyjama rose, vous voyez.
Ou qu'il a 12 ans. Mais
oui. C'est un pyjama rose avec des poils. Vous voyez le genre de pyjama en peluche et un licorne. J'ai une licorne, voilà. Voilà, c'est tout rose en tout cas. Ça fait rêver. Il se méfie de l'annonce de déconfinement de notre président. Pour lui, la date du 11 mai, c'est aussi précis que le dépanneur de sa box internet qui interviendra entre 8h du matin et 20h, le confino-sceptique Laurent Marin.
Salut, bonjour à tous.
Il trouve qu'il y a beaucoup trop de tutos sur internet pour se couper les cheveux et pas assez pour les faire repousser. Le capillo-sceptique Sacha Judasco.
Mais c'est vrai, on pense pas aux chauves.
Eh oui.
Bonjour à tous.
Elle est ravie de savoir qu'elle va pouvoir remettre son enfant à la crèche à partir du 11 mai parce qu'elle commence à s'inquiéter pour la scolarité de sa fille et sa capacité à écouter la chanson de la Reine des Neiges pour la 1295e fois.
Ah oui,
le 11 mai, elle sera enfin libérée, délivrée. Christine Béroux.
Bonjour à tous.
Elle n'est pas médecin, mais elle soigne très bien l'amorosité. Elle peut vous prescrire une heure de bonne humeur à prendre tous les jours à 11h, la thérapeutique Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, nous jouerons à deviner qui je suis avec deux auditeurs qui tenteront de gagner des chocolats réautés, des coffrets DVD et des DVD. Et notre premier invité sera Stéphane Méjanès, journaliste gastronomique, à l'initiative avec Guillaume Gomez, le chef des cuisines du Palais Élysée, du projet APHP, les chefs avec les soignants, nous expliquera en quoi cela consiste. Puis nous aurons au téléphone Camille Rochet, psychologue et thérapeute de couple, pour son livre Être un couple épanoui, reconstruire et entretenir sa vie à deux, paru chez Interédition. Elle nous donnera des conseils pour mieux vivre le confinement. Et enfin, nous recevrons la chanteuse Angoune, marraine de l'association Aviation Sans Frontières, qui a mis en place une plateforme collaborative pour permettre l'acheminement rapide de personnel soignant et d'équipements médicaux en France et en Europe.
11h midi. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Christophe Castaner a rappelé mardi que le déconfinement le 11 mai n'est pas une certitude, mais un objectif. Et vous, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, mais vous, c'est quoi votre objectif du moment, Sacha ?
Ah ben moi, mon objectif, c'est de vous expliquer justement la différence entre un objectif et une certitude. Voilà, ma femme, par exemple, elle veut perdre, avant la fin du confinement, tout le poids qu'elle a pris depuis le début. Ça, c'est l'objectif.
Et c'est quoi la certitude?
Bah, c'est qu'elle n'y arrivera pas.
Oh. Alors, Laurent, votre objectif du moment, c'est quoi?
Bah, moi, je me sens terriblement normal. Hein. Moi, mon objectif du moment, c'est faire un travail sur moi pour qu'une fois tout redevenu normal, je puisse moi aussi vivre une belle et longue histoire d'amour avec la femme dont je suis tombé amoureux récemment.
Ah, vous êtes tombé amoureux? Comment elle s'appelle?
Marion, Marion c'était hier sur Tinder. Julie, Julie c'était sur Instagram samedi. Bon, j'ai encore un peu de boulot apparemment, voilà.
Laurent Barra, vous avez reçu un message de félicitations de votre voisine?
Oui, Anne, j'ai reçu un message sur Facebook d'une voisine qui tenait à nous remercier tous, toute l'équipe, d'égayer ses matinées avec l'émission. Ah, ça m'a énormément touché de recevoir ce genre de message, parce que c'est une vraie récompense de notre boulot à tous. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du boulot? Moi, je dirais plutôt que c'est une psychothérapie collective d'une heure entre Christine, qui nous raconte tous les jours qu'elle tombe amoureuse dès qu'elle allume la télévision, moi qui relance toutes mes ex en essayant de me gourer le moins possible dans les prénoms, Anne qui est habillée en licorne apparemment entre deux fournées de classiques au thon, de pâte au thon, de cake au thon, de milkshake au thon, plus une coupe de frange approximativement droite, essaye de monter son vélo d'appartement. Quant à Sacha, lui, qui monte sa copine sur son vélo d'appartement, pas besoin de perdre l'odorat pour vous dire que ça sent pas le prix Nobel, tout ça. Et pourtant, ma voisine nous aime et nous félicite. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup trop d'infirmières qui, le matin, en partant au boulot, la boule au ventre, découvrent sur leur porte des messages de haine de leurs voisins. Ma chère voisine, c'est avec beaucoup d'inquiétude que le matin, avec ma femme, cachée derrière les rideaux, nous vous voyons partir à l'hôpital. Nous savons quelle est votre profession et vous prions de quitter la résidence au plus vite pour ne pas nous mettre en danger, nous, Gunther, notre chat asthmatique, et l'ensemble des habitants de la résidence. Bien à vous, signé un voisin inquiet. Honte à vous, honte à vous, honte à vous, que l'on me rapporte un cas où une infirmière aurait refusé de soigner un patient de peur qu'il la mette en danger. Bah jamais, jamais. L'amour et la reconnaissance, ce n'est pas juste applaudir à 20h et rentrer regarder la Casa del Papel. Non, il l'a dit, le président. Il va falloir nous réinventer, même moi. Eh bien, ce luxe de pouvoir se réinventer, nous le devrons en grande partie à ceux qui nous auront soignés au péril de leur vie, en palliant au manque de masques, en palliant au manque de gants, en palliant au manque de blouses, et pire que tout, en palliant au manque de reconnaissance de leurs voisins de palier.
Bravo !
Bravo !
Ouais ! Ça, c'est de la chronique. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Christine Béroux, Sacha Judasco, Laurent Barra et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner des chocolats réautés, des DVD et des coffrets CD en jouant à notre jeu Devinez qui je suis.
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Christine Béroux, la confinée bouillante de Montreuil, Laurent Barra, le confiné coq en pâte d'Aubonne dans le 95, Sacha Judasco qui est en couple et avec qui ça se passe bien à Boulogne. Et puis oui, vous avez l'air heureux. Et puis moi qui suis en licorne dans le 8e arrondissement, dans un délicieux, voilà. Je sais, je voudrais pas exciter les auditeurs, mais si vous me voyez dans cette combinaison de licorne, c'est même pas à quoi ça ressemble en fait. Mais j'ai l'impression d'être une peluche en fait. Mais j'aime bien. Franchement, c'est réconfortant. Je pense qu'on a besoin d'être enrobé de cocon parce que c'est quand même spécial.
C'est marrant parce que moi aussi, j'ai l'impression d'être une peluche, mais c'est parce que je m'épile pas. Mais chacun ses problèmes.
Mon Dieu.
À cause de la pandémie de coronavirus, le consortium Unicode qui développe les emojis pour smartphone a annoncé mercredi qu'il décale à cet automne la diffusion de la nouvelle collection qui compte 117 emojis parmi lesquels le castor, le poivron, les myrtilles, la fondue ou encore un homme qui donne le biberon à un bébé. Quel emoji vous utilisez le plus depuis qu'on est confiné, Sacha?
Moi, l'emoji alors que j'envoie le plus, c'est le bisou avec le cœur. Alors, je l'envoie à tout le monde, celui-là, à mes amis, à ma famille. Alors, je précise que c'est juste une marque d'affection, rien de plus. Hein, je précise parce que je l'envoyais hier à mon concierge, j'avais vu la photo qu'il m'a renvoyée, je pense qu'il n'a pas les bons codes.
Qu'est-ce qui vous fait croire ça?
Ah bah, soit il n'a pas les bons codes, soit il faisait vraiment très très chaud chez lui parce qu'il avait vraiment très très peu de vêtements.
Christine?
Oh bah moi je suis tellement déçue, moi j'attendais l'emoji castor avec tellement d'impatience, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un animal qui sait se servir de sa queue.
Christine!
Oui?
Mais c'est pas vrai!
Je pense que vous partez en vrille. Bon, c'est le moment de notre jeu, Christine. Ça s'appelle comment le jeu?
Oui. Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff.
Devinez qui je suis.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de Charlie Chaplin, né le 16 avril 1889. Charlie Chaplin, acteur mais aussi réalisateur, vous devez aujourd'hui deviner des personnalités qui ont cette double casquette d'acteur et de réalisateur. Europe 1 vous offre un coffret de 10 sachets de chocolat Réauté en cette période particulière. Réauté Chocolat, fabricant chocolatier français depuis 1954, reste à vos côtés pour vous apporter quelques plaisirs avec ses dernières créations. Réauté Chocolat vous souhaite le meilleur à vous et vos proches avant de vous retrouver. J'essaye de faire des variations.
Ah ok. D'accord.
Avant de vous retrouver pour des instants gourmands, gardez le contact, Réauté Chocolat.
Allez-y, allez-y, continuez. Désolé.
Allez prendre un coup dans l'abreuvoir, ma petite licorne, non?
Réauté Chocolat, goûtez, vous verrez.
Oui.
Je le fais
et
bien, non?
Très buvé avec modération.
Vous avez fait l'apéro avant que j'arrive
On joue d'abord avec Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Fanny.
Alors Fanny, vous avez 34 ans, vous habitez à Sartilly dans la Manche, vous êtes professeur de mathématiques au lycée et vous travaillez en ligne avec vos élèves, vous répondez à leurs questions, vous corrigez leurs exercices.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Et vous êtes en couple depuis 9 ans et vous connaissez votre mari depuis l'âge de 10 ans.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. C'est une histoire de famille, mais sans qu'on soit... Mais
attendez, comment c'est une histoire de famille?
C'est votre cousin, c'est quoi? Non.
C'est un peu compliqué. C'est quoi? Non, mais en fait, mes parents sont très amis avec une tante et un oncle de mon conjoint. Donc, quand il y avait des repas de famille, on se retrouvait en fait ensemble. Et donc voilà, c'est comme ça que je l'ai connu.
Donc vous l'avez connu en des repas de famille, vous avez joué ensemble. Vous plaisait ou il vous plaisait pas à l'époque?
Il me plaisait beaucoup, mais il ne le savait pas parce que je n'osais pas aller le voir. Et puis de son côté, pareil, il était très timide. Et puis on s'est retrouvés. À 17 ans, donc on était ensemble pendant un mois, et puis après, ça a cassé, et on s'est retrouvés à l'âge de 26 ans. Voilà.
Ah ouais. Ah oui, il y a eu un grand écart de 9 ans comme ça. Et pourquoi à 17 ans, ça avait duré qu'un mois?
Eh bien, en fait, je ne pensais pas qu'il était si timide. Il me taquine avec ça.
Et en même temps, c'est bien, parce que du coup, vous avez vécu des choses entre 17 et 26 ans, vous êtes aperçu que c'était moins bien qu'avec lui, du coup, en fait.
Ben voilà, c'est ça, tout à fait.
Comme ça, vous étiez sûre que vous vouliez faire votre vie avec lui.
C'est ça, exactement.
Vous prenez la liste 1 ou la liste 2, Fanny?
La liste 1, et j'espère que mon conjoint va m'aider, parce que je n'y connais rien dans tout ça. Donc,
En cinéma, vous y connaissez rien? Comment il s'appelle, acteur, votre conjoint?
Acteur, réalisateur, je suis un peu... Oui, je suis un petit peu...
Comment il s'appelle?
Romain.
Romain. D'accord. Donc vous jouez, vous avez mis le haut-parleur et vous jouez tous les deux.
Exactement.
Vous jouez avec qui?
Avec Christine.
Avec Christine.
Voilà.
Liste 1, on a dit. Attention.
Ok.
Top chrono.
C'est le présentateur de Burger Quiz. Il a réalisé Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Ça va.
Oui, elle a tourné avec Leïla Bekhti dans Tout ce qui brille.
Je ne sais plus.
C'est la fille de Josiane Balasco.
Marie Louberry.
Oui, il a tourné dans La Haine. C'est La Haine, voilà. Amélie
Vincent
Poulain, Xenino. C'est la femme de François Baroin. Elle a beaucoup fait du théâtre avec Pierre Palmade. Ils se sont aimés, se sont aimés. Oui, il fait partie de la troupe du Splendide. La troupe du Splendide, c'est lui qui faisait le Père Noël. Dans Le Père Noël est une ordure, il avait une moustache.
Junior.
Oui,
son prénom.
Elle l'a dit, oui.
Très bien.
Oui,
quatre bonnes réponses. C'est pas mal du tout, hein. Bon, vous avez tout trouvé, mais c'est vrai que c'est. Vous n'avez pas trouvé Géraldine Nakache, mais sinon c'était très bien.
Ah, oui. Oui, en fait, on a un peu patiné sur Nakache. Ouais, c'est de ma faute. C'était peut-être pas le choix le plus bon.
Non, mais c'est pas grave.
Alors, on va jouer maintenant avec Didier. Didier a 49 ans. Bonjour Didier.
Oui, bonjour Anne et à toute l'équipe.
Bonjour Didier.
Bonjour Didier.
Alors Didier, vous habitez à Carquefour, Loire-Atlantique. Vous êtes responsable d'un hôtel qui est maintenant fermé évidemment depuis 3 semaines. Vous êtes au chômage partiel. Et vous êtes célibataire depuis toujours.
Oui.
Ça et vous ne cherchez plus. Vous êtes bien tout seul et comme ça, il n'est pas perturbé pendant le confinement.
Et tout à fait. Et puis voilà, je respecte les clientes. Voilà, mon hôtel.
Mais là, vous dites que votre hôtel est fermé, donc il n'y a personne.
Ah oui, mais j'ai un appart de fonction. Je reste quand même sur l'hôtel, quoi, pour le surveiller. Enfin, qu'il ne reste pas tout seul non plus, quoi, s'il y a quelque chose. Enfin voilà, puis s'il y a un besoin.
Donc vous êtes tout seul dans un hôtel qui est vide.
Voilà, tout à fait.
Ça fait pas un peu peur, je trouve, ça fait un peu psychose, non?
Non, maintenant ça va. Et puis bon, il y a un lotissement, il y a des habitations juste à côté quand même, donc voilà.
Vous avez pris la plus belle de l'hôtel,
totalement isolé, quoi, loin de tout.
Bon Didier, vous jouez avec qui?
Ben avec vous.
Oh là 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 là.
Désolé.
Vous êtes au courant qu'elle est habillée en licorne quand même, hein? Vous jouez avec une licorne.
Allez, on y va Didier, vous êtes prêts? Quelqu'un peut lancer le chrono?
Et c'est
parti. Quelqu'un lance le chrono. Une actrice française la plus populaire, l'héroïne de la Boom, elle est très populaire depuis qu'elle a 14 ans. Oui, elle jouait dans la bande du Splendide, elle jouait la fille un peu grosse, c'était le film Les hommes préfèrent les grosses, elle a une grande gueule. Oui, très bien. Elle est mariée avec Charlotte Gainsbourg. Les réalisateurs de films. Très bien. Elle était mariée avec Jean-Pierre Bacri, elle est réalisatrice, elle a fait plein de films, Le goût des autres, des pièces de théâtre.
Jaoui.
Oui, son prénom, ce serait bien. Ah, oui, son prénom. Il était dans la Agnès Jaoui. Il était dans la bande du Splendide et il disait croyait qu'il y a une ouverture, il y a une ouverture, elle était une ouverture. Je vais conclure, on va conclure. Mais non, l'autre, le petit rabougri.
Égalité.
Le petit rabougri, on l'embrasse.
4 égalités. Bon, ouais. Ben c'est moi qui vais vous départager. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui, prêt.
On y va. C'est une comédienne très chic qui fait du one woman show un peu BCBG, jouée dans Les Visiteurs. Elle a fait une pub, c'est moi qui l'ai fait. Elle a réalisé plusieurs films, Palais Royal.
Ah oui. Comment ça s'appelle?
Très chic, BCBG, merci, elle fait du one man show. Oui, voilà.
Bravo.
Très bien.
Bravo.
Ben, bravo.
Bravo.
Bravo, Fanny.
Merci.
Un petit cri de joie, Fanny.
Oui.
Fanny, vous avez gagné un coffret de 10 chocolats Réauté, de 10 sachets de chocolat Réauté. En cette période particulière, Réauté Chocolat reste à vos côtés pour vous offrir ses dernières créations. Plus d'infos sur réauté-chocolat.com. Et vous gagnez également un lot de 10 DVD de films en partenariat avec Europe 1, le coffret collector 60 ans d'Europe 1 et une boîte de jeux top 50.
Eh bien, super. Merci beaucoup, en
bravo.
Tout cas.
Bravo.
Super sympa.
Bravo. Et puis Didier, pour vous consoler, vous qui êtes tout seul dans votre hôtel, on vous offre également un coffret de chocolat Réauté et le coffret collector des 60 ans d'Europe 1.
Ok, super, merci beaucoup.
Et Didier, vous savez, vous avez été un petit peu choupiné tout seul dans votre hôtel. Et alors, je vous propose que vous rejoignez avec nous d'ici un mois. Non, mais c'est pas ça, mais il m'attendrit. Il est tout seul dans son hôtel, il essaye de le remettre à flot, il attend dans un hôtel vide. Ça doit être très, très déprimant. Même s'il dit qu'il est heureux tout seul, il n'est pas si heureux que ça.
Et puis voilà,
mais bien remonté le moral, en tout cas.
Oui, mais bon. Donc, du coup, vous allez rejouer avec nous dans un mois, Didier, d'accord?
Ok, ça marche, merci.
La licorne vous embrasse.
Oui.
Allez, bon courage pour le confinement à tous les deux. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Tous les bénéfices seront reversés à l'Institut Pasteur. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Barra, Sacha Judasco, Christine Bérou et notre invité par téléphone, le journaliste gastronomique Stéphane Méjanès, qui est à l'initiative avec Guillaume Gomez, le chef des cuisines du Palais de l'Élysée, du projet de la PHP, les chefs avec les soignants. Il nous expliquera en quoi cela consiste. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Bérou, la confinée de Montreuil, Laurent Barra qui est confiné à Aubonne, et Sacha Judasco qui est amoureux à Boulogne, confiné en couple. Christine Bérou, vous vouliez adresser un message à votre fille pour le futur?
Eh oui Anne, parce qu'on vit un moment historique et je me dis que ma fille sera contente de trouver ce message en 2038 pour ses 20 ans. Vous vous rendez compte, 2038, moi j'aurai 56 ans et vous Anne? Bien, c'est donc une lettre pour ma fille.
Mais j'aurai 74 ans dans 20 ans, il n'y a pas de honte.
On n'a pas envie d'en parler. Non, bien sûr. Alors, chère Jeanne, je t'écris de 2020 où tu passes tes journées devant Disney+ à regarder des dessins animés avec le prince charmant. Du coup, là, j'espère que tu t'amuses bien du haut de tes 20 ans à chercher un idéal d'homme qui n'existe pas. En 2020, moi, je te regarde grandir. J'ai 37 ans et je présente une émission avec mes trois chroniqueurs, Laurent Barra, Sacha Judasco et Anne Romano. Des petits jeunes prometteurs que j'ai pris sous mon aile. Actuellement, c'est pas la joie. Nous sommes tous confinés. Tu as dû apprendre ça dans tes livres d'histoire, enfin tes tablettes électroniques d'histoire. Ma grand-mère me parlait de la guerre. Moi, je te parlerai du confinement. Même si ça n'a pas grand-chose à voir, ma grand-mère m'a raconté qu'on rasait la tête des femmes qui avaient fricoté avec les Allemands. Là, on rase juste la tête des femmes qui ont regardé un tuto YouTube pour se couper les cheveux tout seul parce qu'elles se sont ratées et que c'est pour leur bien. Jeanne, tu as presque 2 ans, tu es confinée et tu ne te rends compte de rien. Tu ne réclames pas la liberté, tu réclames des frites. Ce qui n'est pas sans me rappeler mon ancienne chroniqueuse Anne Romanoff. C'est un confinement pendant lequel j'ai de la chance. Bien sûr, je suis séparée de mon amoureux Bradley Cooper, mais à part ça, je peux encore faire mon travail. Pourquoi vous riez? Et passer du temps avec toi. On a une cour dans laquelle on peut voir les oiseaux. Les oiseaux, rappelle-toi, c'était ce qu'on avait avant dans le ciel et qui n'était pas des drones. À l'heure où je t'écris, ça fait un mois que je n'ai pas eu l'occasion de sortir la poussette. Un mois que tu n'as pas croisé un autre enfant. Un mois que tu crois qu'à 20h, tout le quartier t'applaudit. On passe énormément de temps à jouer toutes les deux. Tu es contente. Ton papa aussi, il passe beaucoup de temps avec toi. Mais ça, ça a toujours été comme ça. Ça, c'est pas le confinement, c'est le chômage. Ce confinement, Jeanne, est l'occasion pour moi de me rappeler qu'on est fragile, que tout n'est pas acquis, même pas un café en terrasse, même pas te pousser sur une balançoire au parc. Jeanne, dimanche, on va fêter tes 2 ans. 2 ans que je t'ai mise au monde. 2 ans que je connais le sens du mot épisiotomie. J'avais invité 40 personnes, nous serons 3, toi, maman et papa, qui sont amis à défaut de ne plus être amoureux, papa et maman, qui surtout t'aiment comme ils n'ont jamais aimé personne et qui ont hâte plus que tout de te revoir courir dans un parc avec tes copains. Bon anniversaire, ma chérie, et vivement le 11 mai.
Bravo.
Oh, ça me fait pleurer. Chaque jour, nous recevons un invité qui fait du bien à travers des initiatives solidaires. Aujourd'hui, c'est Stéphane Méjanès, journaliste gastronomique, qui a l'initiative avec Guillaume Gomez, chef des cuisines du Palais Élysée, du projet de l'APHP, les chefs avec les soignants. Bonjour Stéphane Méjanès.
Bonjour à tous. Merci de,
Bonjour.
De votre invitation.
Alors le mouvement Les Chefs avec les Soignants s'est donné pour mission d'apporter au personnel hospitalier des repas préparés par des chefs de restaurants gastronomiques. Expliquez-nous comment vous est venue cette idée.
Alors tout est parti d'une tribune, une lettre ouverte que j'ai écrite, que j'ai publiée sur mes réseaux, dans laquelle je disais tout mon soutien à mes amis chefs restaurateurs. Et au milieu de cette lettre, j'exprimais l'idée que peut-être les chefs auraient envie de faire à manger pour les soignants, dont l'ordinaire de l'hôpital, on le sait, quand on a été patient, n'est pas formidable. Donc voilà, j'ai lancé cette idée. J'étais sans doute ni le premier ni le seul, mais en tout cas, je l'ai écrite et ça fait écho à ce que faisait Guillaume Gomez, donc qui est un ami, qui est le chef de l'Élysée. Et qui travaillait lui aussi à essayer de monter une initiative de ce genre pour que des chefs puissent apporter un peu de réconfort aux soignants. Il était en lien avec la PHP, lui, à son niveau. Et puis on a agrégé un troisième acteur qui était essentiel, qui s'occupe de toute la coordination et de la livraison, qui est une start-up francilienne qui s'appelle TipTok et qui est spécialisée dans la livraison de repas de chefs, préparés par des chefs dans le restaurant, aux entreprises. Et là, on a reproduit, en fait, ce sont autant de petites productions de chefs, voilà, gratuitement, évidemment. Tout est bénévole aujourd'hui à ce jour, même si on essaye aujourd'hui maintenant pour durer de trouver un peu de financement. Mais jusqu'à présent, tout le monde est bénévole. Et du coup, nous, on s'est vraiment limité. Hein, on ne sauve pas des vies, hein, ce sont les soignants qui sauvent des vies. Donc, on ne sauve pas les soignants. On essaye de leur apporter un peu de réconfort. Donc, on ne livre que le dimanche aux hôpitaux de la PHP, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et le mercredi et le dimanche dans d'autres hôpitaux et partout en France. Et ce qui est magique dans ce mouvement...
C'est incroyable.
Étendu, voilà. Ouais, on a touché aujourd'hui 12 régions sur 13. Seule la Corse résiste encore.
Vous acceptez tous les chefs ou vous triez les chefs?
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On a aujourd'hui 650 chefs qui sont inscrits sur la plateforme dans le mouvement. Tout le monde n'a pas cuisiné, mais non, on a des chefs bistronomiques, des chefs étoilés, bien sûr. On a cette chance aussi d'avoir des 1, des 2 et même des 3 étoiles qui apportent à manger dans certains services, notamment en province. Je pense à Menton avec Maro Colagreco. Mais non, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Simplement, ce sont des repas effectivement améliorés, entre guillemets. C'est entrée, plat, dessert, c'est joliment présenté, avec des bons produits, et c'est cuisiné par des chefs qui sont tous des bons chefs, peu importe...
Avec amour, cuisiné avec amour.
Oui, du sentiment, on le sait, c'est ce qui fait souvent la différence dans un plat, c'est le sentiment qu'on y met pour le transmettre à celui à qui on l'apporte. Il n'y a rien de plus intime que de faire à manger pour quelqu'un, on lui met de la nourriture dans le corps, si j'ose dire. Donc c'est un acte très fort, et c'est cet acte-là qu'on voulait transmettre, c'est ce signe qu'on voulait faire à tous les soignants qui sont en première ligne, et auxquels il faudra penser après aussi, hein, parce que là c'est bien de les soutenir, mais ce sont des métiers qui toute la vie nous accompagnent, pour le meilleur et pour le pire.
Vous, finalement, vous êtes d'habitude journaliste gastronomique. Là, maintenant, vous faites un peu du caritatif, finalement. Vous organisez toute la journée, vous êtes en contact avec les chefs, avec les hôpitaux. Est-ce que ça change quelque chose dans votre vision du monde? Est-ce que, quand tout ça sera fini, vous reprendrez votre métier comme avant? Ou alors, il y a quelque chose en vous qui a été changé fondamentalement?
Je pense qu'on est tous changés par ce moment. Ou alors, ça veut dire qu'on est dans une grotte et qu'on ne voit pas le monde. Donc, cet épisode incroyable va tous nous changer. Moi, j'ai toujours essayé d'être un citoyen, assez engagé, pas forcément dans le caritatif, mais en tout cas, notamment pour les artisans, les producteurs locaux de bons produits, avec des collaborations que j'ai avec différents journaux et avec différents festivals. Bien sûr que ça change les choses, et moi, ce que je souhaite, c'est que ce mouvement qui s'est créé, ce lien qui s'est tissé entre les chefs et les soignants perdure. Il y a déjà beaucoup de chefs qui sont en contact avec des hôpitaux, qui le disent pas forcément d'ailleurs, qui cuisinent pour des unités de fin de vie, par exemple, parce que c'est important de bien manger quand on est à la fin de sa vie, mais aussi à d'autres moments plus joyeux. Manger, ça peut aussi aider à guérir, je pense. En tout cas, ça soutient. Donc ouais, je souhaite vivement qu'après tout ça, on ne s'oublie pas les uns les autres, on n'oublie pas les soignants, que les chefs qui sont en très grande difficulté, hein, ça va être très compliqué pour beaucoup de rouvrir leur restaurant, s'ils le peuvent, de repartir. Mais je pense que cet élan qu'ils ont montré spontanément, vraiment, on a été submergés de propositions de chefs. De toute façon, ils piaffent chez eux, ils peuvent pas faire à manger, donc ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer. Donc on verra, j'espère que tout ce grand mouvement pourra continuer après.
Stéphane Méjanès, alors les chefs qui vous... imaginons, il y a des cuisiniers qui vous écoutent, des chefs de restaurant, ils ont envie de rejoindre votre mouvement, ils vont sur le site leschefsaveclessoignants.fr et ils postulent en disant « je suis prêt à préparer pour un hôpital », c'est ça ?
Exactement, on a créé dès le début deux formulaires très simples qu'on peut remplir en ligne. Un pour les hôpitaux, donc pour recueillir les demandes des hôpitaux et... hors APHP notamment, et bien sûr un autre formulaire pour que les chefs se portent volontaires. Donc je le disais tout à l'heure, on a eu 650 réponses.
Et ben après cette émission, vous avez 650 chefs, peut-être qu'après cette émission, vous en aurez 900.
Mais peut-être, mais 1000. Mais
et peut-être que vous n'allez pas dormir du tout après. Et donc vous ferez un burn-out.
Et, franchement, peu importe.
Et Stéphane Méjanès, est-ce que quelqu'un qui a un hôpital qui vous écoute et qui dit bah, moi j'aimerais bien bénéficier de ce dispositif, il peut vous écrire également?
Pareil, c'est ce que je disais, il y a deux formulaires, il y a quatre formulaires en fait sur le site leschefsaveclessoignants.fr, l'un pour les chefs, un pour les hôpitaux, mais aussi un pour les producteurs qui auraient peut-être des denrées à donner, et un autre pour des bénévoles qui peuvent nous rejoindre pour soutenir toute l'équipe TipTok qui travaille d'arrache-pied, donc pour coordonner toutes les choses sur le terrain, même à distance,
avec les bénévoles,
avec les chefs, avec les partenaires. Voilà, il y a beaucoup de bénévoles.
Vous cherchez des bénévoles, vous cherchez des restaurateurs et vous voulez bien encore rajouter des hôpitaux. Bravo pour cette belle initiative, Stéphane. Et on cherche des sous, absolument. Les chefs avec les soignants.fr. Bravo Stéphane Méjanès, bon courage pour la suite.
Merci Anne, bravo à vous, merci de votre invitation.
Bravo.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Bérou, Sacha Judasco, Laurent Barra et notre invité Camille Rocher, psychologue et thérapeute de couple pour son livre « Être un couple épanoui, reconstruire et entretenir ». Vous n'êtes pas un couple Christine, vous êtes juste épanoui. « Être un couple épanoui, reconstruire et entretenir sa vie à deux » paru en septembre 2019 chez Interédition. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, avec Sacha Judasco, Christine Bérou, Laurent Barra.
Toujours là.
Comment ça se passe avec vos amis, Laurent Barra? Est-ce qu'ils n'en ont pas un peu assez de vous? Parce que ça fait maintenant 10 jours que vous êtes incrustés chez eux, non?
C'est surtout à eux.
Mais je vous le dis. Mais ils sont en télétravail, donc on se croise. On n'a pas l'impression d'habiter ensemble, je vous jure, hein, vraiment. Lui, il travaille au deuxième étage, à le rez-de-chaussée. Moi, avec vous, je suis au premier, mais bon, voilà. Et je suis un colocataire très agréable, vraiment. Je me conseille à tout
vraiment
le monde.
Vraiment?
Oui.
Tu leur fais des petits plats, tout bien, ça tu...
Non, ils cuisinent très bien. Je ne vais pas les éclabousser tout de suite de mon talent. On va y aller progressivement.
Tu te rends utile un petit peu ou pas?
Meilleur vin de
Est-ce que vous faites un peu de ménage? Oui, est-ce que vous passez à l'aspirateur?
Bien sûr.
Je l'aide même à jardiner. Hein.
Mais oui, mais bien sûr, mais vous n'avez pas besoin de me le dire. Je suis très agréable. Vraiment, je ne me déçois pas.
C'est bien, c'est que vous avez une bonne opinion de vous.
Et quand ils ont appris que
on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Ils ont eu quelle réaction quand Emmanuel Macron
ils
a parlé du 11 mai? Ils ont pleuré, oui, c'est ça. Voilà. C'est
ils ont, ils ont eu la nostalgie déjà de me voir repartir.
Oui, oui.
Parce que pour eux, c'est compliqué parce qu'ils vous ont invité chez eux. Mais à l'époque, ça devait durer moins longtemps. Maintenant, vous êtes là, vous êtes incrusté, vous avez vos habitudes. Vous êtes persuadé que vous êtes très agréable, alors que si ça se trouve, pour eux, vous êtes un peu un boulet. Vous vous en rendez pas compte parce que c'est le principe du boulet. Le boulet ne se rend pas compte qu'il est un boulet.
C'est peut-être comme un gros chien pour eux. Laurent, c'est comme un gros chien.
Un animal de compagnie, un ami de compagnie.
Oui, on peut le caresser pendant qu'on regarde la télé.
Dit la femme qui s'habille en licorne, toujours pareil.
Bon, Sacha Judasco, vous n'êtes pas habillé en licorne, vous, ce matin?
Non.
Et vous voulez nous faire un petit bilan de ce confinement au bout de 3 semaines?
Oui, alors comme on est à peu près à mi-chemin du confinement, moi je me suis dit que c'est le moment de faire un premier bilan et de me poser la question. Qu'est-ce qui me manque vraiment? Ne pas voir mes parents? Bien sûr que ça me manque. Ne pas voir mes amis? Bien sûr que ça me manque. Ne pas vous voir, vous, Anne? Bien sûr que ça me manque. Ne pas voir ma belle-mère? Bref, il y a plein de choses qui me manquent. Mais celle qui me manque le plus, j'ai réalisé que c'est l'imprévisibilité. Moi qui suis le plus grand fan de Claude Lelouch, qui a fait du hasard une hygiène de vie, je suis aujourd'hui dans un monde où plus rien n'est hasardeux. Enfin, plus rien. Les seules incertitudes que j'ai sur le jour suivant, c'est quoi? Quel film de De Funès ils vont diffuser demain? La Folie des Grandeurs ou La Soupe aux Choux? Mystère! Combien de fois je vais avoir envie de faire l'amour? 6 fois? 7 fois? Combien de fois je vais avoir envie de faire l'amour demain avec ma femme? 2 fois? 3 fois? Combien de fois je vais réussir à convaincre ma femme? À quelle heure ma femme va commencer à dire que je la saoule? Dès 9h du matin ou alors carrément à 8h? Quand je pense qu'avant je lisais mon horoscope pour savoir à l'avance ce qui allait m'arriver, et là je donnerais n'importe quoi pour ne pas savoir ce qui va m'arriver demain. Ne pas savoir. Ne pas savoir qui tu vas croiser. Ne pas savoir si tu vas trouver de la place pour te garer. Ne pas savoir si dehors tu vas avoir chaud, si tu vas te l'écailler. Ne pas savoir si tu vas aimer le film que tu vas voir au ciné. Ne pas savoir dans quel resto tu vas aller déjeuner. Ne pas savoir en face de qui tu vas déjeuner. Ne pas savoir qui va payer le déjeuner. Ne pas savoir à quelle heure tu vas rentrer. Ne pas savoir où tu vas rentrer. Ne pas savoir avec qui tu vas rentrer. Ne pas savoir dans qui tu vas rentrer.
C'était poétique et là, ça y est, ça part en live.
Ah oui,
ne
voilà.
Ne pas savoir, ne pas savoir. Quand je pense à toute ma scolarité, on a cessé de me répéter « tu sais rien », je me dis qu'à l'époque, je savais déjà au fond de moi que c'était important de ne pas savoir. Et que c'est sûrement pour ça que durant toutes mes études, j'ai absolument rien changé. Alors je regrette beaucoup de choses. Je regrette de ne pas avoir utilisé toutes ces Wonderbox, Smartbox qui traînent dans un tiroir et qui arrivent bientôt à l'expiration. Je regrette toutes les fois où j'ai dit « Oh non, pas aujourd'hui, j'ai la flemme de sortir là. Oh non, non, pas ce soir, je suis crevé, je sors pas là. Oh non, là, on reste là, on sort pas, il fait froid. Là, j'ai envie de me dire « Mais quel con, quel con, quel con !» Mais ce que je regrette le plus, c'est d'avoir sous-estimé l'importance de l'imprévisibilité. Alors dans l'avenir lointain, franchement, je ne sais pas ce qui va se passer et c'est très bien comme ça. Je pense savoir juste une chose. Comme le disait Victor Hugo, je pense que les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. En tout cas, j'espère.
Bravo!
Bravo, mon
Quelle
Sacha!
Quelle chronique, Sacha Judasco! Alors, notre prochaine invitée, elle va nous aider aussi à réfléchir. Elle s'appelle Camille Rocher. Elle est psychologue, thérapeute de couple et conférencière. Elle est auteure du livre « Être un couple épanoui, reconstruire ensemble et entretenir sa vie à deux » paru en septembre 2019 chez Interédition. Être épanoui en couple quand on est confiné, ça n'est pas si simple. Ce matin sur Europe 1, elle va nous donner quelques clés pour mieux vivre en couple et entretenir l'équilibre familial. Bonjour Camille Rocher.
Bonjour Anne.
Alors, bonjour. Déjà première question, est-ce que vous êtes en couple? Parce que c'est pas tout de donner des conseils, mais vous?
Oui, je suis en couple. Et heureusement, parce que je pense qu'en effet, ça, c'est bien aussi d'expérimenter pour soi.
Oui, et vous êtes en couple depuis combien de temps sans indiscrétion?
Ça va faire plus de 10 ans.
Ah, c'est
voilà.
Bien. Ça c'est,
hein,
vous... c'est pas mal quand même.
Vous avez jamais tenu jusque là, Christine, Laurent, 10 ans. Vous avez jamais fait 10
ans? Non, merci de nous le rappeler, merci.
Jamais.
Camille Rocher, quel est le plus grand danger pour le couple quand on est confiné?
Le plus grand danger, c'est d'être trop en fusion l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attentes qui va être vis-à-vis de l'autre parce que on est évidemment dans le même espace, avec un espace plus ou moins grand en fonction des superficies. Et le problème, c'est d'avoir l'illusion qu'on va vouloir tout partager ensemble et en oublier que si on a d'habitude cette vie à l'extérieur qui fait qu'on a cette distance entre nous, il faut qu'on arrive à la retrouver aussi dans ce confinement, parce que sinon on va vite être déçu de voir que l'autre n'est pas totalement dans l'attitude que je peux idéaliser du fait d'être ensemble à deux.
C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas avoir trop d'attentes envers l'autre. Il faut savoir que l'autre va vous décevoir, en fait. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer.
Ouais, exactement. Il faut savoir qu'en fait, on a besoin... Non, mais en fait, c'est ça. Non, mais je pense que de toute façon, le couple, il faut accepter cette réalité aussi, de savoir que l'autre me décevra et que là où j'aurais besoin qu'on soit beaucoup à deux... Il y a des couples qui sont comme ça, où l'un ou l'autre a besoin d'être beaucoup avec l'autre, et en fait d'accepter que l'autre a besoin d'avoir son espace vital, d'avoir d'être un peu seul et d'avoir cette distance entre nous. Et là, en général, cette distance est créée par le fait d'aller au travail, d'aller à l'extérieur, d'aller faire une course tout seul.
C'est vrai.
Ça. Là, aujourd'hui, on n'a pas cette distance. Et pour garder le désir, garder l'envie d'être avec l'autre, garder l'envie de la découverte de l'autre, il faut qu'on ait cet espace aussi d'indépendance et de solitude pour avoir le besoin de se retrouver.
Oui, mais enfin, c'est un peu compliqué parce que du coup, vous conseillez donc de s'habiller le matin, de se coiffer, de se maquiller et de ne pas de se laisser aller, par exemple.
Mais oui, Anne,
vous conseillez pas de rester en pyjama de licorne toute la journée, par exemple.
honnêtement, je pense qu'en effet, ça peut être assez néfaste. Alors oui, relâcher un peu, bien sûr, mais je pense que d'être tout le temps comme ça, ça peut être un peu dommage. Et parfois, de se dépasser un peu, de se dire, tiens, ce soir, on se fait un dîner sympa, on s'habille, ou là, je sais pas, c'est le week-end, on essaye de faire un effort.
Ou on se déshabille, on se fait un dîner sympa on se déshabille si on n'est que tous les deux.
Aussi, mais c'est encore mieux de se déshabiller quand on a été habillé avant et bien habillé. Donc voilà,
oui,
je pense qu'il faut, arriver à se dépasser un peu pour continuer à surprendre l'autre et ne pas être vexé du fait que l'autre ait besoin d'être seul aussi. C'est pas un rejet de ma personne, c'est un besoin, je pense, vital aussi d'être un peu seul, de se retrouver seul. Et pour ensuite avoir quelque chose à te raconter, avoir envie de te retrouver.
Quelque chose à se raconter. Quelque chose à se raconter quand on est chacun dans une pièce différente. Oh, il m'arrive un truc ce matin. J'étais dans le salon. Qu'est-ce que vous voulez raconter? J'ai ouvert la fenêtre.
Le truc, c'est que d'être seule, ça me permet d'appeler des amis, ça me permet de pas être tout le temps dans la communication sans cesse avec mon conjoint, ou que l'autre entende tout ce que je dis à côté. Vous voyez, il y a aussi, je peux...
Oui, mais des fois, excusez-moi, c'est inévitable. Moi, je suis dans 70 mètres carrés avec ma fille de 17 ans, et comme c'est une cuisine ouverte, sur un salon ouvert, tout est ouvert, en fait, il n'y a pas de porte.
Ouais.
Donc, c'est bien gentil d'être ouvert, mais après, t'entends tout. Et donc, elle, quand elle parle, j'entends vaguement des bruits. Moi, quand je parle, elle entend la moitié de ce que je dis, et il y a pas de, il faudrait construire une porte, mais là j'ai pas les possibilités.
On peut
déjà du mal à construire mon vélo d'appartement.
D'écouter une émission de radio en mettant les écouteurs, et ça isole un petit peu.
Mais c'est un peu énervant si je parle à quelqu'un et elle entend tout, et elle, quand elle parle, même la porte fermée, j'entends. Donc l'intimité, elle a un copain par exemple pour lui parler, qui vient en couple pour lui parler, il va dans les toilettes parce que c'est compliqué ça, cette histoire.
Ouais, mais honnêtement, moi je pense que les toilettes sont une des pièces vitales.
C'est
pour
la nouvelle place
de
tout.
Non, mais c'est vrai. Mais pour beaucoup de familles et pour beaucoup de couples, je pense que les toilettes, c'est un endroit vital aujourd'hui. C'est un moment où je peux me réfugier, où l'autre doit respecter aussi que j'ai besoin d'être seule. Et peut-être parfois, il faut être enfermé à clé parce qu'il y a des enfants en bas âge qui n'arrivent pas à respecter mon espace d'intimité. Et honnêtement, si on n'a pas l'espace et pas de porte, au moins, il y en a aux toilettes. Et je pense qu'il ne faut pas lésiner là-dessus. Hein.
Bravo d'appliquer vos théories, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils qui n'y arrivent pas du tout en vrai. Donc bravo à vous, on sent que vous dites la vérité, donc je souhaite que ça continue pour vous. On rappelle votre livre Être un couple épanoui, reconstruire et entretenir sa vie à deux, paru aux chez Interédition. Donc pour ceux qui ont envie que ça aille mieux dans leur couple, Être un couple épanoui, reconstruire et entretenir sa vie à deux, chez Interédition, de Camille Rocher. Merci à vous, Camille Rocher, d'être passée nous voir. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Barra, Sacha Judasco, Christine Mérou et notre invitée, toujours par téléphone, la chanteuse Angoune, marraine de l'association Aviation Sans Frontières, qui a mis en place une plateforme collaborative pour permettre l'acheminement de personnel soignant et d'équipements médicaux en France et en Europe. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Béroux, Laurent Barra, Sacha Judasco.
Oui.
Et notre invitée qui mène une double carrière de chanteuse en Indonésie, son pays natal, et en France, son pays d'adoption. Elle a grandi sur l'île de Java, mais le public français l'a adoptée depuis longtemps. Elle collectionne les disques d'or et les duos avec les stars de la scène hexagonale, comme Vincent Niclot ou Florent Pagny. Et on l'a découvert récemment dans le rôle de jurée de Masked Singer sur TF1. Mais aujourd'hui, c'est la marraine de l'association Aviation Sans Frontières qui est avec nous au téléphone. Celle dont le nom javanais signifie rêve gracieux. La gracieuse et lumineuse Angoune est avec nous ce matin. Bonjour Angoune.
Bonjour, bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec vous au téléphone sur Europe 1. Alors après un mois de confinement, enfin trois semaines, qu'est-ce qui vous manque le plus Angoune? Votre public, vos amis, votre coiffeur?
Non, je suis mon coiffeur, oui, me manque un peu. Non, mais c'est la vie d'avant, tout simplement. Ma vie sociale, mes amis, et puis le fait de pouvoir sortir, je ne sais pas, me divertir ailleurs qu'à la maison. Mais finalement, en fait, c'est très bien aussi. En fait, on revient à l'essentiel. Voilà.
Et vous, êtes confinée avec qui, Angoune?
Je suis confinée avec mon mari.
On peut dire que le confinement vous donne des ailes, parce que vous êtes la marraine de l'association Aviation Sans Frontières, qui est très impliquée actuellement dans la lutte contre le Covid-19. Cette association fait appel aux professionnels du secteur aéronautique et du transport aérien pour qu'ils mettent à disposition à titre gracieux leurs avions et leurs équipages professionnels. Ça représente beaucoup de monde.